certains, c'est la colombe blanche, la liberté. Pour moi, c'est rouge pute. Ma liberté. Du rouge à lèvres, du rouge voyant. Du rouge tu me vois ? Du rouge c'est moi. Putain, cognait-il si je mettais du rouge. Elle déclenche la violence, la féminité, les insultes, l'interrogatoire, les brutalités. Rouge sang. Dans ma nouvelle collection, je choisis un tube rouge pute. Je dessine mes lèvres, redessine ma vie. Visible, vivante, rouge vif.
Bienvenue ce soir dans Overbooké, l'émission des bavardes. Vous êtes sur Radio Campus 87.7. Vous venez d'entendre un texte de Prisca qui nous lisait un extrait de Rouge pute, un livre de l'autrice Perrine Le Quérec. On est particulièrement ému de faire cette émission au mois de novembre, puisque figurez-vous que demain, c'est la journée internationale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. À cette occasion, les bavardes co-organisent avec la BSP, avec les Madeleines, avec Pas à Passo, avec Solidaire 80, avec le Planning Familial 80 et Amnesty International, une marche en mixité choisie, c'est-à-dire sans homme cis, qui partira à 18h de la gare d'Amiens le jeudi 25 novembre. On se retrouvera en mixité devant le commissariat des otages, le commissariat de la rue des otages, pardon, à 19h30.
Et on espère vous voir nombreux, nombreuses.
Ce soir dans l'émission, on a une belle équipe. Je me prends pour Alex Vizorek, qui a un problème avec ça.
Carrément, qu'est-ce que tu veux ?
Ce soir dans l'émission, nous avons une belle équipe. C'est Ludivine qui co-anime cette émission avec moi.
Coucou.
Nous accueillons pour la première fois Marion. Nous avons aussi Kelly, salut. Juliette et Angélique qui est entrée parce qu'elle a vu de la lumière. Bonjour à toutes.
Et qui nous aide et qui apprend la technique. Merci beaucoup Angélique.
Une petite actu bavarde aussi en passant, n'oubliez pas que c'est nos 4 ans qui arrivent à grands pas et le week-end du 4 et 5 décembre, nous espérons les fêter dignement avec vous. À cette occasion, le samedi 4 décembre, nous faisons un loto, un traditionnel loto à la taverne électrique qui sera suivi d'un quiz. Et le dimanche, on vous invite à un brunch à la BSP pour faire une bataille féministe.
On sera là.
Toujours.
J'espère que vous serez là, effectivement. Et j'en profite pour revenir aussi un petit peu sur la Witches Week, un événement qui nous a réunis enfin en présentiel entre le 6 et le 14 novembre. Vous y étiez ?
Et ouais, et comment manquer ça ?
C'est une grosse force bénévole.
Et oui.
Donc on a pu voir les expos de Gaëlle Martin et Joël Bouffroy et l'exposition photo de Maëva. Et puis il y avait Mina Bandita qui tatouait aussi. Et il y avait des spectacles, des concerts, notre chère Frida.
C'était super bien, Frida. Je t'aime.
Dédicace à Frida.
Tout à fait. Et en concert, on a aussi eu Pur Sang. Merci beaucoup à elle, qui était aussi là à la Witches Week virtuelle de l'an dernier et qu'on a enfin pu voir en concert. Et quelle énergie. On a aussi eu le droit au One Woman Show de la danse de la compagnie du Tourillon. Pardon, j'ai un peu du mal à le dire. Qui est une danseuse qui danse sur les textes de femmes en danse libre, qui était vraiment incroyable à voir. Le lendemain, on a eu le droit aux Madeleines, qui nous ont fait leur pièce de spectacle du Théâtre de l'Opprimé en Théâtre Forum, donc c'était absolument génial, qui était suivi d'une scène ouverte. Merci beaucoup à toutes les artistes et tous les artistes qui sont montés sur scène, c'était incroyable.
C'était vraiment cool, ouais.
Ouais. Suivi d'un DJ set devant Campo, merci beaucoup d'avoir ambiancé le dance floor, ça a fait tellement du bien de pouvoir redanser sur ce genre de musique, avec tout le monde, c'était fou.
Et puis, Gardezito, on entendait beaucoup parler tout au long du festival, qui a clôturé d'ailleurs.
Qui a clôturé le festival, c'était son premier concert sur scène et on était nombreuses à être là pour l'acclamer. Je crois même qu'il y a 2-3 panneaux qui ont été faits pour elle. Donc on a eu Frida en concert, qui a été incroyable. On a eu Brave et Hacké, superbe aussi, et qui était avant, on avait là une compagnie de danse qui s'est créée en une semaine avec des femmes qui n'avaient pas du tout l'habitude de danser.
Ah, c'était absolument fabuleux.
Exactement, ouais, qui s'appelait vrai. J'aimerais te dire, de la compagnie ouais. A Corpo.
Je crois qu'il y avait 3 danseuses professionnelles, c'est ça ?
C'est ça, qui encadraient les femmes qui voulaient danser. On a eu aussi un concert de Balidou et un concert de La Chica.
Super chouette.
Et pour terminer le remerciement des artistes, on a aussi eu un spectacle de clownerie en virtuel avec Dricados Santos. Merci beaucoup à elle d'être venue, d'avoir présenté tout ça. Et surtout, merci aux bénévoles qui ont permis de rendre ça possible pour faire tout ce qui était l'entrée, le bar, etc. Donc, super Witches Week. Et on espère vous voir l'an prochain là-bas, parce qu'on ne compte pas s'arrêter là.
La Witches Week, oui, c'était la 3e édition. Mais c'est vrai que la précédente, elle était en virtuel. Et vraiment, le présentiel, ça, c'est quand même incomparable. Ça nous avait vraiment manqué.
Complètement.
Alors maintenant, si vous le voulez bien, on va écouter Kelly. Kelly, donc, c'est une street artiste et une tatoueuse. Et aujourd'hui, elle va nous partager sa vision de la place des femmes dans la culture et dans les arts.
Eh bien, merci. Alors, on sait bien qu'aucune femme n'a jamais accédé à la présidence de la République française. On sait bien qu'on gagne moins que notre collègue pour le même taf. On sait bien qu'on va devoir bosser bien plus pour nous démarquer dans notre société, dans notre domaine d'activité. Et je voulais vous dire de vous accrocher parce qu'on a encore beaucoup de concepts à déconstruire. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la place des femmes dans la culture et dans l'art. Donc, ce qu'on sait moins, c'est que nous, les femmes, nous sommes majoritaires dans les écoles d'art, par exemple. Mais on se retrouve fort dépourvues dès que la bise fut venue. Et oui, nous représentons 60% des étudiants en art. Et puis, comme j'ai pu beaucoup lire, nous nous évaporons. Alors, j'ai bien aimé cette expression dans la vie active. Alors cette expression un peu vaporeuse et humide, elle m'a fait sourire parce qu'il y a une sorte de romantisme, alors qu'en fait c'est hyper violent. Ça veut dire que nous les femmes, après l'école, on n'a pas beaucoup d'opportunités, on manque de considération, on manque de subventions, et ce qui nous amène à devenir précaires. Donc je suis là pour témoigner parce que moi-même je suis artiste, et puis j'ai aussi envie de donner des pistes de réflexion, qu'on puisse réfléchir ensemble à la place des femmes dans l'art, et puis vous encourager, vous, artistes, femmes, à prendre la place que vous voulez et puis la place qui vous est due, tout simplement. Et vous, qui êtes amateur, amatrice, vous avez aussi un rôle à jouer, celui de soutenir les artistes femmes, parce qu'on sait aujourd'hui que soutenir l'art, c'est aussi aller voir des expos, c'est aussi acheter des objets, acheter de l'art produit par les femmes. Donc, je voulais aussi ajouter que je trouve ça dommage de genrer l'art, de parler d'artistes femmes. En fait, je pense qu'en général, on ne devrait pas en fait dire artistes femmes, on devrait juste dire artistes. Mais d'artistes femmes, d'art des femmes ou de l'art féminin. Parce qu'en plus, je ne suis pas certaine que le propre de l'art, il se trouve là. Mais ça, c'est un autre sujet. Peut-être qu'un jour, je ferai une autre chronique là-dessus. Mais là, on va devoir, du coup, genrer le propos. Donc, moi, je m'appelle Kelly Mitty. Je suis street artiste et tatoueuse. Alors, je dis street artiste parce que je peins dans la rue. Mais en gros, je suis peintre. Et puis, je suis donc tatoueuse. Et donc, j'ai voulu dans deux secteurs à majorité masculine. Et d'une certaine manière, ça me dérange. Donc, je remarque que ceux qui prennent les décisions, ceux qui tiennent les fonds, sont souvent des hommes. Et quand je dis ça, je parle de commissaires d'exposition, des studios de tatou, des créateurs de festivals. Donc, je ne reproche pas à ces hommes d'être à leur place. Pas du tout, en fait. Je m'interroge sur la quasi-exclusivité masculine. Et j'ai moi-même été aux Beaux-Arts, et donc on était une majorité de femmes étudiantes. Et puis les profs qui avaient de l'influence, c'était des hommes. Et donc, d'ailleurs, je crois qu'il y a toujours eu des hommes qui ont été à la tête de l'établissement. Bref, donc pour en revenir à mon activité, je suis en effet toujours un peu déçue de voir que c'est souvent des hommes qui sont en tête d'affiche des expos de street art, et alors qu'il y a beaucoup de femmes muralistes, beaucoup de femmes qui en veulent, et puis beaucoup de femmes qui ont du talent. Donc on connaît Banksy, on connaît Obé, on connaît Blake Laura, pour ceux qui s'y connaissent en street art, mais on connaît beaucoup moins Lady K, Cashing ou Mystique, pareil à l'ancienne. Donc pour appuyer un peu ce que je dis, je voulais plus qu'un témoignage, je voulais aussi m'appuyer sur des chiffres. Donc, et ces chiffres-là, ils peuvent nous permettre de nous rendre compte de ce qui se passe d'une manière très claire. Donc merci au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes pour les chiffres qui datent de 2018. Donc comme je vous ai dit, on représente 60% des étudiants, donc nous les femmes, on est 60% des étudiants en art, et en définitif, 40% des artistes actifs, 20% des artistes aidés par des fonds publics, 20% des artistes programmés, 20% des dirigeantes et 10% des artistes récompensés. Et à poste égal et compétences égales, une femme artiste gagne en moyenne 18% de moins qu'un homme. Donc la question que j'ai envie de poser, c'est que se passe-t-il entre la période d'études et l'arrivée dans la vie active ? Et puis la question, avons-nous moins de talent ? Il y a un article que j'ai lu récemment qui s'intitule « Escroquerie, manipulation, trois petits points » de Picasso à Rodin, ces femmes artistes éclipsées par leurs compagnons. Je vous invite à lire cet article pour répondre aux questions que je viens de poser. Il y a aussi un souci de représentation. Par exemple, le Louvre ne compte qu'une trentaine de peintures d'artistes femmes. Donc le souci, c'est aussi qu'on ne se reconnaît pas, qu'on ne valorise pas la contribution des femmes à l'histoire de l'art. Du coup, on a aussi très peu de modèles. Donc comment est-ce que nous, on peut, nous-mêmes, femmes, se projeter et puis croire en nous, croire que c'est possible quand on va dans des expos, on va dans des, on va au cinéma, on va à des conférences, on va en fait, on n'est pas représenté. Donc c'est aussi cette place qu'on ne prend pas, mais parce que la société nous renvoie. Bon, voilà, on connaît ce cheminant. Donc maintenant, j'ai envie de vous parler évidemment de solutions, parce que moi je suis dans le positif et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et du coup, je me suis dit, moi par exemple, en tant qu'artiste femme, en tant que tatoueuse, qu'est-ce que je fais pour avoir plus de visibilité ? Donc, je crois que déjà, se rassembler comme nous, là, maintenant, on fait, c'est un truc qui est pas mal, ça marche bien. D'ailleurs, moi, j'étais au festival de Witches Week et j'ai vraiment senti aussi cette chose-là, de se dire, mais quand on se rassemble, il se passe quelque chose aussi, on se soutient, on se fait des connexions, on se fait du réseau. Et ça nous permet aussi d'y croire, en fait, de voir que c'est possible d'aller sur une scène, de chanter, d'exposer, qu'on peut nous-mêmes aussi organiser des événements. Parce qu'il y a aussi ça, c'est que souvent, nous, les femmes, on expose, mais on n'est pas forcément celle qui tient la galerie, on n'est pas forcément celle qui tient le musée, on n'est pas... Et ça, c'est important aussi. Et d'ailleurs... Là, je regardais, il y a Ruffin qui a sorti un film, Debout les femmes. Bon, c'est très bien, c'est très cool, mais c'est Ruffin, c'est un homme. Alors, on adore Ruffin, on l'adore, c'est sûr. Ah, il y a quelqu'un qui dit, ouais, bon, moi, je l'aime bien, mais je ne connais pas tout non plus. Mais bon, voilà. Donc, se pose aussi cette question-là d'être aussi peut-être à la racine des événements féminins. Et donc, ce que je disais, c'est qu'on pouvait gagner en visibilité en se rassemblant entre femmes, et puis aussi dans des collectifs mixtes, mais veillons à cette mixité. Parce que souvent, ça commence mixte, et puis à la fin, c'est plus du tout mixte. qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On peut se monter en association aussi, on peut aller à la DRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles, demander s'il y a des dispositifs, spécialement... pour les femmes, et puis on peut aussi en créer, parce que si vous-même, vous avez le pouvoir, vous êtes dirigeante, si vous-même, vous êtes à la tête d'asso, j'en sais rien, allez-y, créez des événements, et puis il y a des forces pour ça aussi, je pense, pour vous soutenir. Et donc, j'aurais envie de surtout dire, on peut aussi créer nos propres événements, et moi, en tant qu'artiste, c'est ce que je fais, en tant que street artiste, je crée mes propres événements, Je peins dans la rue, j'essaie de démarcher des habitants, j'essaie d'être moi-même à la source en fait de mon art. Et donc je crois que aussi créer nos propres événements, nos utopies, je pense que ça doit venir de nous parce que sinon j'ai bien peur que ça ne viendra jamais. D'ailleurs, la première femme à diriger le Tate Modern à Londres a réservé une extension du musée à la parité parfaite entre hommes et femmes. Donc ça veut aussi bien dire que si on met une dirigeante à la tête d'une institution, elle, avec aussi sa propre sensibilité, et puis en sachant aussi ce qui se passe pour nous les femmes, elle est capable de mettre en place, donc nous-mêmes aussi. Bon, voilà. Et alors, je voulais aussi parler d'une autre initiative du musée Baltimore aux US qui a mis en vente 7 œuvres d'art de grand nom de la peinture américaine d'après-guerre, donc Rauschenberg ou Warhol, pour avoir les moyens de diversifier la collection du musée en achetant des œuvres d'artistes afro-américains, afro-américaines et puis de femmes. Donc voilà, après pour terminer cette chronique, j'avais envie de vous dire que soyons attentifs au line-up des soirées, parce qu'il y en a aussi un peu marre de voir toujours des mecs derrière les platines. Donc après, je dis pas qu'il faut absolument avoir que des femmes, mais veillons à la mixité. Donc ça veut dire que nous, par exemple, qui nous-mêmes consommons ces soirées, on peut aussi dire aux organisateurs, pourquoi tu bookes pas aussi des femmes? Il faut les chercher, il faut les encourager, il faut les soutenir. Et puis, soyons attentifs au nom des artistes des expos que nous allons voir. Donnons la parité, voire l'exclusivité. Et donc, pour terminer, je voudrais vous proposer une petite expérience. Alors, j'étais au Mexique pendant 8 mois. J'ai rencontré une féministe mexicaine qui m'a parlé d'une expérience qu'elle a fait elle-même et que j'ai trouvée formidable. Et donc, que je n'ai pas fait, mais franchement, il faudrait que je la fasse. Donc, en fait, je me dis, dès demain, faisons une expérience, on pourrait décider... de regarder tout ce qu'on achète, tout ce qu'on consomme et de voir s'il y a une femme derrière. Par exemple, on pourrait se dire, je vais à un concert. Donc, alors, on se dit, pendant une semaine, je vais essayer de rémunérer que les femmes. Donc, je veux dire par là qu'en termes de culture, même en termes de gastronomie, parce que les femmes aussi sont très peu représentées dans la cuisine. Il y a très peu de chefs étoilées femmes. Et puis, donc je pense qu'il y a vraiment une expérience à faire. Donc imaginez-vous, demain, à la boulangerie, vous demandez à votre boulanger qui cuisine, qui fait le pain. Si ce n'est pas une femme, vous n'achetez pas de pain.
Et si elle le vend,
Alors... Voilà, alors la question c'est de savoir celui qui est toujours et savoir peut-être celui qui a la base, à qui revient vraiment les sous. Parce que du coup, nous les femmes, on est souvent les petites mains des hommes. Ça veut dire, moi je suis artiste et c'est vrai que quand je m'adresse à un festival pour pouvoir peindre, c'est souvent des hommes. Et c'est très bien, c'est comme ça, mais nous aussi, on peut faire quelque chose. Donc, dès demain, peut-être qu'on va essayer de manger du pain fabriqué par une femme, on va peut-être essayer d'aller voir un concert où une femme chante, on va peut-être essayer de se faire servir une bière par une barmaid. Et puis, du coup, ça pourrait nous permettre de voir comment, finalement, on est... peu présente dans le quotidien et puis surtout aussi d'en discuter, parce que j'imagine que en parlant de ça on va nous dire mais pourquoi tu dis parce que voilà. Et puis c'est aussi ça aussi je pense essayer d'avoir un discours féministe, c'est donc engager le dialogue pour montrer que nous on attend ça, que nous on le veut puis qu'on le réclame. Je voulais terminer cette chronique en citant Virginia Woolf qui dit le plus souvent dans l'histoire, anonyme était une femme.
Merci Kelly. Bon, j'ai l'impression qu'on ne va pas manger beaucoup de pain ni boire beaucoup de bière la semaine prochaine. Je préfère vous le dire parce que moi je sais que dans mon quartier, les mecs qui boulangent, c'est des bonhommes. Et puis les mecs qui possèdent les bars dans lesquels je vais boire des bières, c'est des bonhommes. Mais c'est bien, pour ma ligne c'est nickel.
J'ai la conscience tranquille, au McDo c'est une nana qui m'a servi.
Et le PDG de McDo c'est...
Ah, c'est vrai que c'est un homme.
Ah merde.
Repose. Ton Big Mac.
Ok, merci.
Merci. Non, et puis je pense que c'est vraiment symptomatique de toute la société. C'est à partir du moment où ça se professionnalise et où on gagne sa vie avec, c'est presque que des hommes, que ce soit le milieu de la culture, de la cuisine, des jeux vidéo, de plein de trucs. À partir du moment où ça se professionnalise et où les personnes peuvent en vivre, ce ne sont principalement que des hommes. Malheureusement.
Ouais.
J'ai eu la même expérience avec l'écriture. Quand j'ai commencé à écrire, j'avais uniquement des miroirs masculins. Donc ça a été très dur au début de me dire, j'assume, j'écris. Donc au début, j'avais un pseudonyme masculin. Et je me genrais au masculin pour pouvoir faire ma place. Et puis ensuite, j'ai assumé.
Et alors, moi, je voudrais rajouter, parce que en faisant... c'est la première fois que j'écris une chronique. Et puis, en faisant des recherches, je me suis aussi aperçue que, que lorsque les femmes étaient bien rémunérées, souvent c'était dans un stéréotype. Donc ça veut dire les top modèles. Et du coup, c'est aussi la figure qu'on attend de la femme. Ça veut dire que voilà, le top modèle. Alors je crois que c'est l'un des seuls métiers où la femme est mieux payée.
L'industrie du porno.
J'allais le dire. Et il y a le porno aussi. Ouais, autant qu'il y a, les top modèles et puis les stars du porno. Parce que justement, la société, elle glorifie vachement la femme qui fait du porno, qui est bien gaulée, qui blablabla. Donc voilà.
Ouais, vaste sujet. On espère qu'un jour, on aura le droit à une égalité là-dessus. Mais il y a encore énormément de boulot. C'est comme, j'aime bien faire écho à ta chronique, parce que je trouve qu'elle était géniale du tout début de ta première chronique, Juliette. Oui, c'est toi que je regarde. De la féminisation des noms de métiers ou autres, en fait. Et c'est vraiment symptomatique de tout ça, en fait. C'est que si le nom féminin n'existe pas, souvent, c'est que le métier n'existe pas aussi. Alors que si, il est là, c'est juste qu'il y a une minorité, qu'on ne laisse pas la place aux femmes. Ou alors qu'on leur apprend qu'elles n'ont pas leur place. C'est même pas qu'on ne leur laisse pas la place, c'est qu'on leur dit « tu n'as pas ta place là-dedans » ou on te montre de manière insidieuse que tu n'as pas ta place, donc en fait, tu ne vas pas aller la chercher. Donc voilà. Merci beaucoup, Kelly, pour cette première chronique qui était fort intéressante.
On peut retrouver les œuvres de Kelly sur kellymiti.com. Ça s'écrit Ça s'écrit KE2LYMITI.
Et puis j'ai aussi un Instagram.
Dis-nous ton Instagram.
Eh bien, pareil, KellyMiti, KE2LYMITI.
Merci, Kelly.
Merci. On va peut-être enchaîner sur une première pause musicale. Alors là, on va vous... Alors, c'est Estelle qui n'est pas là, mais dont vous avez l'habitude d'entendre la voix, qui nous a conseillé un groupe de rappeuses. Donc, le nom de la chanson s'appelle Aou. Alors, je ne sais pas comment vraiment le prononcer. Puis, Estelle n'est pas là, donc tant pis pour elle.
Aou
Donc, qui est chantée par Sheila, Bianca Costa, Davy Orr, Le Juice. Juice. Et Vicky R. Voilà. Bonne écoute. Juicy, Vicky, Bianca, Pac-Man, c'est la folie. Taïa, t'es tout beau, car t'as pas capté, on va trop vite. Qui dis-moi, qui nous peut la collaber, hâte et solide. On a le flow, l'esthétique, l'attitude, le combo est un policier de pêche. Ramenez sous, j'investis tout. On est trop tous, t'as le club, ouloulou. Ramenez sous, j'investis tout. On est trop tous, t'as le club, ouloulou. T'es sur sa jupe, ça flex. C'est qui vaille. J'ai mettre le Brésil en couleur sur la carte.
Quoi? Ils veulent me donner de la force, ils sont impuissants. Je suis devant un paquet d'osé, ça appétissant. Tu m'as prise pour ta putain de mère. J'ai vu leur gueule, ça m'a mis sur les nerfs. Un bif, je suis content de faire. Elle m'arrive pas à la cheville. Elle monte sur ses chevaux. 5 étoiles, c'est mon train de vie. Toi, ta poil sur les réseaux. Bras long, t'as pas Rolex, t'as pas coup d'extincteur. Je vais te faire danser comme une chaga. C'est du rap ou d'arabe.
C'est du rap champagne. C'est le juice dans mon jus, tu baignes. Je fais des sous pas là pour faire la belle. T'es accro comme à la cocaine. J'ai du ice, mais je suis hot. Parle bien, je suis pas ta pote. Toujours clingé, trop la cote. Je fais du sale, mais je fais ça propre. La petite à personne dans le rap, j'suis la baronne, j'ai crié ton daron, j'ai kiffé ta daronne, bitch. J'suis la trappe maman, donc t'es mon fils. Numéro 1, t'es numéro 10. Trop de flots dans ma tête, on est 10. Crois pas qu'on est bitch, j'ai cramé ton fils. Bitch. Mon dieu, j'suis condamné à mourir riche.
Ici, c'est la jupe, ça flex. De Brésil ou à Paris. T'as la rage comme mon ex. Ici, c'est la jupe, ça flex. De Paris à Libreville.
Ici, on compte les espèces. Vie. On envoie des flammes, on est pyro. Comme chez qui n'a rien, qu'on brûle tout. Bars, on en a des kilos. Mais bon, à skip, ça fait pas tout. Sous-côté, mais j'suis dans le top 10. J'ai ce que je vaux, j'ai les capacités. Font ami sur le Netflix. Les bars chinois, quand il faut te citer, j'ai pas besoin qu'ils me plébiscitent. J'ai qui et qui, donc ils m'aiment me suivent. Tu me verras jamais dans des baisers. Toujours en team, toujours en équipe. Derrière mon dos, sont là comme le dossard. J'dois toujours en faire plus. On fout la merde comme paradis sur Mars. Comme ça qu'on exécute. J'suis dans le rap quand je veux, j'flex. Passe partout comme le 4-4. La DT haute, pas de complexe. Vos rappeurs dans le 4 sont mangés. J'arrive avec la fougue, le flow, ils sont en danger. L'avenir sera radieux si tous
amis communs. Repose, je vois que tu flippes.
Ah oh.
Ici ça drip, ça flex.
Ah oh.
Double zéro à Paris.
Ah oh.
T'as la rage comme mon ex.
Ah oh. Boum, boum, boum. Ah oh.
Ici ça drip, ça flex.
Ah oh.
De Paris à Libreville.
Ah oh.
Ici on compte les espèces.
Ah oh. Boum, boum, boum.
Bye. Ça fait dans mon regard. Asséché mes larmes.
Quelle pêche!
Merci Estelle pour ce morceau, c'était chouette. Du coup, on écoute maintenant Juliette qui va nous raconter son expérience avec le corps médical. Pas toujours super positif, si j'ai bien compris.
En effet. Alors, quand j'ai voulu écrire cette chronique, je me suis heurtée à un mur, puis un autre, puis encore un. Je dois le dire, j'ai galéré. Il y avait un premier obstacle, celui de se replonger dans des violences que j'ai vécues, que mes amis ont vécues, que ma mère a vécues pendant des années. Des violences qui ont laissé des traces, qui ont donné naissance à des traumatismes. Un autre obstacle est lié au fameux syndrome d'imposture. Si je fais le choix de dire imposture plutôt qu'imposteur, je précise que c'est parce que je pense qu'on ressent ce syndrome avec beaucoup plus d'intensité lorsque l'on n'est pas un homme. Quand j'échange avec d'autres femmes ou personnes s'identifiant comme femmes qui souffrent de maladies chroniques, je me rends bien souvent compte qu'elles n'osent pas toujours parler de leur expérience. Souvent, elles rabaissent leurs symptômes. C'est pas si grave, il y a pire que moi. Quand bien même ces symptômes les empêchent de vivre normalement. C'est peut-être parce que la médecine ne les a jamais accueillis en leur disant « Dites-moi ce que vous ressentez, dites-moi où vous avez mal, je vous crois. » J'ai moi aussi ressenti ce syndrome d'imposture au moment d'écrire cette chronique. Puisque je n'ai rencontré que des médecins qui s'en foutaient, je me suis demandé pourquoi ça intéresserait d'autres personnes. J'ai pleuré aussi en repensant à ce que j'ai vécu et j'ai pleuré en repensant à ce que ma mère, avec qui je partage la même maladie, a vécu avant moi. J'ai pleuré en repensant à ce que mes amis ont vécu, en me remémorant tous ces instants où j'ai cru mourir ou j'ai cru qu'elles allaient mourir. Donc je ne peux pas tout vous raconter, ce serait beaucoup trop long. Une vie entière d'errance et de violence médicale, ça ne se résume pas en 5 minutes. Je peux juste vous en dire quelques mots. Ça a commencé quand j'étais jeune, mais c'est surtout quand je suis devenue ado que tout a empiré. Et à 18 ans, mon quotidien était impacté comme jamais auparavant. Il y avait d'abord les règles hémorragiques, les douleurs extrêmement intenses tous les mois, qui m'empêchaient de me lever, d'aller à l'école, de faire du sport. Ça durait parfois 2-3 semaines. Mais il paraît que c'est normal d'avoir mal pendant les règles, qu'il ne faut pas être chochotte. En parallèle, j'ai développé des douleurs parfois très intenses, généralisées, qui prenaient d'assaut mon corps entier. Tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, un fond de douleur, jamais de répit, et parfois des pics qui pouvaient durer plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines. Cela faisait des années que j'allais voir des médecins au fur et à mesure de l'apparition des symptômes. J'ai tellement entendu que c'était sûrement mon stress, que c'était dans la tête, que c'était normal d'avoir un peu mal. J'ai fait des séances de kiné, mais sans effet. Je passe sur les attouchements de l'un d'entre eux. De toute façon, je crois que j'étais là que pour alimenter la trésorerie. La plupart du temps, on m'était dans une pièce avec trois autres personnes, on me refilait des exercices, on revenait me voir au bout d'une heure pour me dire « Allez, on se voit dans deux jours ». On pourrait se dire qu'au XXIe siècle, aucun médecin ne m'a dit que j'étais folle ou hystérique. Et pourtant, oui, on me l'a dit, au détour d'examens bâclés et inutilement douloureux. Tous les médecins, un par un, brisaient les espoirs que je nourrissais. La violence était permanente. Dans les examens effectués sans empathie et bienveillance, dans le scepticisme constant des médecins, dans la nudité qu'on m'imposait souvent inutilement, dans la grossophobie et le sexisme, dans les moqueries et le mépris. Je me sentais tellement, tellement seule. Et un jour, j'ai rencontré d'autres jeunes femmes qui, comme moi, avaient vécu de tels parcours. L'une d'entre elles avait reçu un faux diagnostic, et je l'ai vue se battre pour qu'on trouve enfin de quoi elle souffrait. C'est elle qui a cherché, c'est elle qui a soufflé le diagnostic au neurologue, et les examens l'ont confirmé. Elle souffre d'une maladie chronique grave. Bien qu'elle ne puisse pas sortir de chez elle et faire ses gestes quotidiens, son médecin continue de sous-entendre qu'elle aurait dû faire des efforts, qu'elle exagérait. Encore une fois, il a fallu se battre et trouver un autre médecin, plus compréhensif celui-là. À une autre qui souffrait de fortes douleurs périnéales, on a dit de faire des prières à la lune. Même quand la maladie est reconnue, c'est un parcours infernal, semé d'embûches. Et quand on est atteinte de maladies qui touchent quasiment exclusivement des femmes, on se rend bien compte qu'on ne sera pas soigné ou guéri de sitôt. Les recherches sont quasi absentes, notre corps est une sorte de territoire inconnu que personne n'a envie d'explorer. Quand j'avais 20 ans, je me suis battue pour avoir un traitement, je pensais que ça m'aiderait. J'ai eu des médicaments, mais ils ont bousillé mon cerveau et mon corps. Perte de mémoire, perte de volonté, dépression, prise de poids, malaise, ménopause artificielle. À 20 ans, c'était comme si j'en avais 80, mais 80 dans un sale état. Évidemment, aucun accompagnement digne de ce nom dans la prise de ce traitement, et encore moins dans son arrêt. je me suis débrouillée avec l'aide de ma mère. Syndrome de sevrage, horrible. J'avais des décharges électriques dans le cerveau en permanence. Je ne dormais plus, mon corps réclamait les molécules auxquelles il s'était habitué. J'ai réussi à m'en sortir et j'ai retrouvé mes douleurs, pleines et entières. Aujourd'hui, je ne prends presque plus rien. C'est mon mental qui supporte tout, tout seul. Et c'est dur, très dur. Mais je n'ai plus confiance dans la médecine, pas plus que mes amis et ma mère. Les médecins, on les évite autant que possible. Est-ce que c'est normal? Bien sûr que non. Cette chronique n'apporte ni réponse, ni solution. Mais j'aimerais qu'elle vous invite et qu'elle nous invite tous et toutes à visibiliser les maladies chroniques, en particulier quand elles touchent les femmes, qui sont le plus souvent maltraitées par la médecine. À titre d'exemple, une des maladies les plus mal considérées par les médecins, dont certains remettent encore en question l'existence, s'appelle la fibromyalgie, et au moins 80% des personnes touchées sont des femmes. C'est la maladie dont je souffre. L'endométriose, elle aussi, est une maladie exclusivement féminine. Les troubles anxieux et la dépression, très mal pris en charge, touchent également majoritairement les femmes. Des études récentes ont montré que les femmes victimes de violences conjugales ont deux fois plus de risques de développer une fibromyalgie ou un syndrome de fatigue chronique. Elles ont donc d'autant plus de risques d'être de nouveau confrontées à la violence, une violence institutionnalisée, insidieuse. Je dois m'arrêter là, mais il y aurait tellement de choses à dire. Il y aurait tellement de faits à relater, de chiffres à donner, de maladies à nommer. Ce que je voudrais, c'est vous remercier de m'avoir écouté. Ça fait du bien de savoir que parfois, nos mots ne s'évanouissent pas.
Merci Juliette. Merci.
J'ai galéré.
C'était dur.
Merci.
Voilà.
Merci Juliette. C'est vrai que quand on parle de violences sexistes et sexuelles, on ne pense pas nécessairement aux violences médicales. Le planning familial 80 nous a fait remarquer qu'il fallait absolument qu'on parle des violences obstétricales. Mais d'une manière générale, effectivement, le corps des femmes est absolument inexploré et absolument inintéressant dans tous les secteurs de la médecine.
Et en même temps, ce qui est assez frappant, c'est qu'en fait, à la fois, il est inexploré, et en même temps, quand on va voir des médecins, quand on va à l'hôpital, quand on va chez le gynéco également, en fait, on devient juste une sorte d'objet. Et on nous demande juste de subir les examens sans broncher. Si on ose dire qu'on a mal, si on ose dire quelque chose, on est juste des chochottes. Et on nous sort encore que oh, ça va, vous supportez d'accoucher, donc il faut supporter n'importe quelle douleur, etc. Enfin, c'est, donc à la fois, en fait, tout le monde s'en fiche de notre corps, et en même temps, c'est... Tout le monde pense le connaître, tout le monde nous impose des choses, etc. Donc voilà, il y a aussi ce paradoxe-là.
Et il est considéré comme un domaine public dans bien des situations, oui. Le corps des femmes. Oui. Merci pour ce témoignage, en tout cas.
Okay. Fort. Et on rappelle aussi qu'il y a pas mal d'associations qui essayent de faire des listes de gynécos en particulier, mais aussi de personnel soignant qui sont safe. Et ça, c'est des choses qu'il faut... Alors, techniquement, c'est illégal, donc c'est des choses qui ne sont pas partagées, mais parfois, vous pouvez essayer de vous renseigner auprès de vos associations autour de vous pour qu'elles vous donnent des conseils, alors, parfois sous forme de liste, parfois juste sous forme de témoignage par rapport à ça, parce que y a beaucoup de personnes qui cherchent des gynécos particulièrement safe et chez qui on peut se sentir bien, qui demandent déjà avant de faire un examen médical ou quoi que ce soit. Du coup, c'est... Voilà.
Ou des sages-femmes, c'est l'occasion aussi de rappeler que les sages-femmes, eh ben, elles sont en grève, elles sont dans une sacrée galère parce que leur travail est absolument pas reconnu, elles sont sous-payées, elles sont déqualifiées, alors qu'en fait elles sont absolument indispensables, qu'elles font un boulot de malade avec une responsabilité de malade, qu'elles ont une formation qui est hyper pointue et pour autant elles sont complètement déconsidérées et sous-payées, quoi.
Ouais, puis il faut savoir qu'avec les sages-femmes, on peut faire quasiment tous les examens qu'on peut faire avec un gynéco. Et avec mon endométriose, justement, j'ai jamais trouvé de gynéco compréhensif pour le coup. Et par contre, des sages-femmes compréhensives, j'en ai trouvé plusieurs. Donc faut pas hésiter à aller les voir.
Ouais, en plus, elles sont non seulement compétentes, mais en plus, effectivement, elles sont beaucoup plus à l'écoute. On vous soutient, les sages-femmes du 80. On sait que vous êtes en lutte en ce moment.
Et dans sages-femmes, il y a femmes.
Mais dis donc,
mais c'est vrai ça.
Du coup, ça va être notre deuxième pause musicale. Donc, je vous propose une autre artiste qui s'appelle Tracy Dessa et on va écouter In Between. Bonne écoute. It's a buzzy power, buzzy, buzzy power. It's a buzzy power, buzzy, buzzy power. It's a buzzy power, buzzy, buzzy power. Buzzy, 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 buzzy. It's a reality check. Diamonds not all on my neck. As I fall in bed, take it back. My flow won't go peace, they don't know it's a trap. Make them pursue it, they run in the last. I don't need a seat to bend over and clap. Give them a reason to fab. I got a jackpot in between my legs. I
When your face are running like a savage, I don't call my notice, being average. When I think I get distracted, everybody's favorite gadget, hit it with a magic.
I got a drop pod in between my legs. Now you can tell by the way I choose to flex. If you can honor it, baby, you can next. I got that pussy power, how I'm blessed.
C'était donc Tracy Dessa, In Between, super musique.
Eh bien, je vous propose d'écouter une dernière chronique qui est celle de Marion. Marion, aujourd'hui, elle fait sa première chronique pour Overbooké. Elle est astrologue et énergéticienne et aujourd'hui, si je ne m'abuse, elle va nous parler, elle va nous faire une chronique astro-poétique, voilà, sur les mouvements d'énergie astrale du moment qu'elle met en lien avec le féminisme. C'est
oui,
ça Marion ?
Oui, c'est ça. Alors actuellement, depuis quasiment un an et demi, en fait, dans notre ciel, on a Saturne qui est au carré d'Uranus, qui sont deux planètes astrologiques. Et je me suis servie de ça pour écrire un texte qui relate un petit peu ce qu'on peut ressentir depuis un certain temps et qui touche à un aboutissement et qui aboutira à une sorte de libération en janvier 2022. Donc voilà, j'y vais. Donc, dans l'antichambre d'un temps tordu, d'abord ralenti par à-coups, accéléré puis fané, englué, les chants de frustration grouillent sous un tapis de mains levées, de rage, de véhémence, de revendication, de besoin d'arracher par les cris les manteaux vétustes afin de laisser place au corps pluriel, naissant. Au fond de nous surgit l'hiver, où la végétation s'enfonce afin d'être digérée, essentialisée. Nous abandonnons, nous sommes pliés jusqu'à céder au nouvel état des choses qui se prépare dans l'humus, au cœur du silence. Toutefois, le jeune mouvement tempétueux, impétueux, insoupçonnable, trépigne déjà jusqu'à s'agacer. Ancien monde, nouveau monde se tire la couverture et se cogne l'un l'autre sans conciliation. Prise de conscience, rupture, indignation, besoin radical de changement, la terre glaise cherche à façonner les nouvelles naissances. Les règles rigides, cristallisées, les culpabilités, les hontes, les schémas poussiéreux, archaïques, le patriarcat et les restrictions abusives côtoient les soubresauts de la libération totale, féminine. La chair ressort, les os éparpillés des femmes retrouvent leur souffle et sortent d'un enfermement, de leurs enfermements. Il s'agit maintenant d'écouter la parole, l'énergie brute et bouillante. Rien ne pourra plus être comme avant. Le monde se retourne et chacun a besoin de prendre la responsabilité de ce retournement. Structurer, architecturer, reprendre le pouvoir, affirmer sa puissance, mettre les deux pieds sur la terre, renaître avec patience dans une œuvre solidaire est un fragment de ce que nous propose le cosmos. Ce qui nous assèche a besoin d'être humidifié par la créativité, la force, la voix et le rassemblement. Chacun possède une part unique de l'expression du vivant et c'est ensemble qu'il nous est proposé de retrouver la coopération vitale pour que les révolutions se fassent. Nous déracinerons pour replanter, pour germer autrement. Sororité, solidarité, révolte, patience et confiance, vigilance quant aux extrémités sont des mots importants. Ensemble, nous sommes une forêt de laquelle peut naître le champ dont nous avons manqué. En des termes astrologiques, Saturne représente beaucoup de choses. Il représente notamment l'énergie des traditions, de l'ancien, du passé. Il représente les règles, les lois. Placés en Verseau, nous sommes invités à créer des façons de vivre, de penser, d'être ensemble, plus solidaires. Penser autant au collectif qu'à soi et se penser soi-même comme faisant partie du collectif, donc se responsabiliser. Uranus en Taureau demande des changements concrets, des révolutions dans la manière de se nourrir, de vivre son corps, notamment en lien avec l'environnement et donc aussi à l'écologie, qu'elle soit personnelle, relationnelle ou interpersonnelle, dans l'idée de retrouver la notion de coopération du vivant, la grande solidarité. Tout ça demande également à chacun de s'individualiser et de retrouver la liberté de penser, d'être et uniquement et surtout à partir de soi-même. Donc il y a beaucoup d'anciens à casser, à liquéfier pour reformer quelque chose de nouveau. C'est surtout ça qu'on est invité à faire.
Merci beaucoup Marion pour cette première chronique astro. Alors je tiens à m'excuser à toute la communauté des personnes dans l'astrologie quand j'ai coupé la parole à Estelle quand elle parlait astro le mois dernier. Mais on n'avait pas quelque chose de cette qualité-là. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et du coup je me posais une petite question. Comment t'en es arrivée là et qu'est-ce qui te passionne là-dedans ?
Alors comment j'en suis arrivée là, c'est surtout mon propre parcours et mes propres questionnements qui m'ont amenée là. J'ai reçu d'abord une consultation et tout de suite ça m'a intéressée. Alors j'étais déjà passionnée par la philosophie et la psychanalyse avant et puis ça a été pour moi, je faisais des études d'art aussi et donc ça a été pour moi un moyen de mélanger les choses et de trouver, je sais pas... quelque chose qui venait nourrir aussi des aspirations peut-être plus spirituelles, enfin quelque chose comme ça. Et ce qui me passionne, c'est l'outil en tant que tel, mais aussi c'est quelque chose qui reste encore assez masculin, en tout cas qui véhicule pas mal de stéréotypes. Et moi personnellement, j'ai à cœur de travailler avec avec cette discipline et d'essayer de la transformer aussi à partir d'autres lectures et d'autres intérêts autour du féminisme, et parce qu'on utilise des archétypes qui sont la plupart du temps masculins, et on parle très peu des archétypes féminins dans l'astrologie. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles je fais des recherches.
Et tu parlais de consultation, qu'est-ce que c'est une consultation ?
Alors une consultation, on appelle ça aussi un thème astral. Donc en fait, c'est la photographie du ciel de naissance. Voilà. Et à partir de cette photographie qui représente un peu toutes les fonctions psychologiques qui sont architecturées de façon unique pour chacun, moi j'interprète ça. Et j'accompagne les gens surtout dans une petite connaissance de soi et puis aussi sur... comment aborder ses propres énergies, quels sont les challenges, comment ils peuvent les dépasser, enfin les dépasser, les travailler. Et je lis ça, j'essaye de lier ça au maximum avec la communication non violente pour sortir justement des préjugés et du jugement qui peut aussi être véhiculé dans cette discipline.
Super, merci.
Merci Marion. Alors, j'en profite du coup que tu es là pour moi aussi poser 2-3 questions, parce qu'en fait, moi j'ai débarqué assez tardivement dans le monde des lesbiennes et je me suis aperçue d'un truc, c'est que j'avais pas mal de retard. Bon, déjà, j'avais pas vu tout The L Word, etc. Bon, les classiques, mais surtout, j'y connaissais que dalle en astrologie. Et dans certaines soirées, je me suis vraiment sentie comme une étrangère. Alors, souvent, on me stigmatise dans les soirées lesbiennes parce que je suis scorpion, figurez-vous. Et j'en prends plein la tronche. Ouais, team scorpion, nanana, bah c'est bien un truc de scorpion. Et du coup, je voudrais dire un truc très important. Écoutez-moi tous et celles qui m'écoutaient, là, les lesbiennes. En fait, je ne suis pas scorpion, moi. Hein, d'accord ? Alors, je suis née sous le signe du scorpion, mais je me revendique comme vierge. Est-ce que j'ai le droit de faire ça en vrai, Marion ?
Bah, en vrai. Alors, en vrai, déjà, il y a pas mal de stéréotypes. Hein. Le scorpion, il est stéréotypé, beaucoup.
J'ai cru comprendre ça,
ouais. Mal vu, souvent. Mal compris, surtout. Oui, oui, non, mais si. Et selon qui, enfin selon l'architecture de base de ton thème astral, tu peux te sentir davantage vierge que scorpion alors que t'es né scorpion. Ça, c'est entièrement possible. En fait, c'est chacun porte des énergies uniques et ça dépend vraiment de soi aussi et de ce à quoi on s'identifie. Après, si tu rejettes ton signe parce que les autres le jugent mal...
Je te remercie, je saurais m'en souvenir pour le ressortir en soirée.
Ouais.
En tout cas, ça m'a
après, tu peux dire que le scorpion est un être hypersensible et il ne faut pas trop...
Merci beaucoup. Eh bien, je vous propose de revenir, à moins que vous ayez une réaction, les filles, sur le plateau, sur la marche du 25 novembre. Ok, ça
ouais,
vous va.
Non,
et,
si, si.
Ça vous va. Et bah, très bien, parce que justement, on espère quand même être nombreuses à cette marche. Donc, je vous rappelle qu'on a rendez-vous le 25 novembre à 18h à la gare d'Amiens et qu'on compte marcher jusqu'au commissariat de la rue des Otages pour se retrouver là-bas. La marche, au départ, elle est en mixité choisie, sans homme 6, et on se retrouve en mixité au Comico à 19h30. Et puis je rappelle aussi vite fait l'actu bavarde, on espère vous voir les 4 et 5 décembre à l'anniversaire des bavardes, le samedi à la taverne électrique et le dimanche à la BSP. Et puis je crois que nous allons clôturer gentiment cette émission en écoutant un texte qui est lu par Sam.
Ouais. Du coup oui, on va écouter un texte lu par Sam, donc c'est une adaptation de Canción sin miedo, donc chanson sans peur, de Vivir Quintana. Bonne écoute et merci beaucoup pour cette superbe émission. Merci beaucoup à Radio Campus qui nous prête ses locaux, encore une fois, qui nous permet de faire cette émission. Vous étiez bien sur le 87.7 et à bientôt.
Bonne soirée à toutes.
Bonne soirée.
Merci à vous. Bonsoir. Pour clôturer toutes ces incroyables chroniques et l'émission de ce soir, j'ai souhaité vous lire un texte très fort qu'une amie m'a fait découvrir et qui m'a pas mal bouleversée. On va recontextualiser un peu le truc. Donc on revient un peu en arrière, le 9 mars 2020. Les femmes mexicaines se mettaient en grève générale. Alors elles ont cessé toute leur activité, ont quitté leur lieu de travail, leur école, leur université, les commerces ou même la maison. Ce jour-là, on pouvait entendre dans le centre historique de Mexico la chanson Canción sin miedo de Bibil Quintana, qui est une figure du mouvement féministe mexicain. Tania Romero Barrios, du coup, a adapté cette chanson en texte, et c'est ce dernier que je vais vous lire là tout de suite, maintenant, dans quelques secondes. Que tremble l'État, le ciel et les rues. Que tremblent les policiers et les juges. Aujourd'hui, les femmes, nous avons perdu patience. Vous semez la peur, elle nous donne des ailes. À chaque minute de chaque semaine, vous nous enlevez nos amis, vous tuez nos sœurs, vous détruisez leurs corps, vous les supprimez. N'oublions pas leur nom, s'il vous plaît. Crions-les haut et fort. Pour nos camarades qui militent en spectacle, pour celles qui luttent les yeux pleins de lacrymos, pour la marée verte qui emporte tout sur son passage, pour nos mères qui s'insurgent sur les places. Nous chantons sans crainte, nous demandons justice. Nous crions pour chaque fille disparue, nous crions, nous voulons rester en vie, pour qu'enfin cesse le féminicide. Je jure de tout brûler et de tout démolir. Si un jour un homme éteint tes yeux, plus personne ne me taira. Ça suffit. Qu'il en touche une, nous répondrons toutes. Je suis Uria, je suis Cassandre, je suis Antonia, je suis Heidi, je suis Lucia et je suis Vanessa. Je suis la fille que tu as prise de force. Je suis la mère qui désormais pleure ses mortes. Et je suis celle qui te fera payer tes crimes. Justice, justice. Pour nos camarades qui répondent à l'appel, pour toutes les affreuses migrantes et cholas, pour la société du quartier à la marge, pour les dissidents français.
Une culotte blanche décide de moi.